Le journal de George Fox 1661-1666 Prison du château de Scarborough, page 4. Dans l'après-midi, on me fit remonter de nouveau et l'on me mit parmi les voleurs, où je restai debout, mon chapeau sur la tête, jusqu'à ce que le geôlier me l'enlève. Puis le jury ayant rendu ce nouvel acte d'accusation contre moi, pour ne pas avoir prêté serment, on me fit comparaître à la barre, et le juge me demanda « Que veux-tu dire pour ta défense ?» Je leur demandai de lire l'acte d'accusation, car je ne répondrai pas à ce que je n'avais pas entendu. Le greffier le lut, et pendant qu'il lisait, le juge dit « Prenez garde qu'il ne soit pas faux encore une fois », mais il le lut de telle façon que je pouvais à peine comprendre ce qu'il lisait. Lorsqu'il eut fini, le juge me demanda « Que dis-tu de l'acte d'accusation ?» Je lui dis « Ayant entendu lire un document si long, et cela à une telle distance, je n'ai pas pu distinguer clairement toutes ces parties, je ne peux donc guère dire ce que je dois répondre. Mais s'il voulait me donner une copie et me laisser du temps pour l'examiner, j'y répondrais. Cela les laissa un moment interdits, mais au bout d'un moment le juge me demanda « Combien de temps veux-tu ?» Je dis « Jusqu'aux prochaines assises. » « Mais, dit-il, quelle plaidoirie vas-tu faire maintenant ? Es-tu coupable ou non coupable ?» Je dis « Je ne suis nullement coupable d'avoir refusé de jurer avec obstination et volontairement, et quant aux choses mentionnées dans le serment, comme les complots jésuitiques et les puissances étrangères, je les nie entièrement en mon cœur. Si je pouvais prêter quelque serment que ce soit, je prêterais celui-là, mais je n'ai jamais prêté aucun serment de ma vie. » Le juge répondit « Tu parles bien, mais, dit-il, le roi a prêté serment, le parlement a prêté serment, j'ai prêté serment, les juges de paix ont prêté serment, et la loi est maintenue par des serments. » Je lui dis « Ils avaient une expérience suffisante des serments des hommes, et il avait vu comment les juges de paix et le jury avaient juré à faux l'autre jour. Et s'il avait lu dans le livre des martyrs combien en avaient refusé de jurer, tant au temps des dix persécutions qu'au jour de l'évêque Bonnet, il verrait que refuser de jurer par obéissance au commandement du Christ n'était pas une chose nouvelle. Il dit qu'il souhaitait que les lois fussent autrement. Je dis « Notre oui est oui, et notre non est non, et si nous transgressons notre oui ou notre non, que nous souffrions comme ceux qui jurent faussement souffrent ou devraient souffrir. » Cela lui dis-je, nous l'avons offert au roi, et le roi a dit que c'était raisonnable. Après quelques autres entretiens, ils me renvoyèrent en prison, pour y rester jusqu'aux prochaines assises, et le colonel Kirby donna ordre au geôlier de me tenir étroitement enfermé, et de ne laisser aucune âme vivante venir jusqu'à moi, car je n'étais pas propre, dit-il, à converser avec les hommes. On me mit dans une tour, où la fumée des autres prisonniers montait si épaisse qu'elle demeurait comme de la rosée sur les murs, et parfois elle était si dense que je pouvais à peine voir la chandelle lorsqu'elle brûlait. J'étais enfermé sous trois verrous, et quand la fumée était forte, le sous-geôlier se laissait difficilement persuader de monter pour ouvrir l'une des portes les plus hautes, parce qu'il craignait la fumée, de sorte que j'étais presque étouffé. De plus, la pluie tombait sur mon lit, et bien souvent, quand j'allais essayer d'empêcher la pluie d'entrer pendant la froide saison d'hiver, ma chemise devenait aussi mouillée que de la boue, à cause de la pluie qui me tombait dessus tandis que je m'efforçais de la retenir. Et comme l'endroit était élevé et ouvert au vent, il arrivait que, sitôt que je bouchais le trou, le vent le soufflait de nouveau. C'est ainsi que je restai couché tout ce long et froid hiver jusqu'aux prochaines assises. Pendant ce temps j'étais si transi de froid et de pluie que mon corps enfla beaucoup et que mes membres furent fortement engourdis. Les assises commencèrent le 16e jour du mois appelé mars 1664-5. Les mêmes juges, Twisden et Turney, étant de nouveau sur ce circuit, le juge Twisden siégea cette fois au banc du roi, et l'on m'amena devant lui. Je m'étais aussi informé des erreurs contenues dans cet acte d'accusation. Car bien qu'aux assises précédentes le juge Turney eût dit aux officiers du tribunal « Je vous prie, veillez à ce que tout le serment soit dans l'acte d'accusation, et que le mot sujet y soit, et que le jour du mois et l'année du roi soient mis correctement, car c'est une honte que tant d'erreurs soient vues et trouvées au vu et au su du pays, pourtant bien des erreurs, et de grandes, se trouvaient dans cet acte d'accusation comme dans le précédent. Assurément la main du Seigneur y était, pour confondre leur œuvre malveillante contre moi et les aveugler sur les erreurs. Ainsi bien que, après que l'acte d'accusation eût été rédigé aux assises précédentes, le juge l'eût lui-même examiné et vérifié avec les greffiers, néanmoins le mot sujet fut encore omis de cet acte d'accusation, le jour du mois fut mal indiqué, et plusieurs mots essentiels du serment furent omis, et pourtant il poursuivait avec assurance contre moi, pensant que tout était sûr et en ordre. Quand on me fit comparaître à la barre, et que l'on appela le jury pour qu'il fût assermenté, le greffier me demanda d'abord si j'avais quelque objection à faire au sujet de l'un des jurés. Je lui dis « Je n'en connais aucun ». Puis, après avoir assermenté le jury, Ils firent prêter serment à trois des officiers du tribunal pour attester que le serment m'avait été offert aux dernières assises, conformément à l'acte d'accusation. « Allons, allons, dit le juge, cela ne s'est pas fait dans un coin. » Puis il me demanda ce que j'avais à dire, ou si j'avais prêté serment aux dernières assises. Je lui dis ce que je leur avais dit auparavant, tel que cela me revenait alors en mémoire. Sur quoi le juge dit, « Je ne discuterai pas avec toi autrement qu'en droit. » Alors, dis-je, j'ai quelque chose à dire au jury au sujet de l'acte d'accusation. Il me dit, « Tu ne dois pas parler au jury, mais si tu as quelque chose à dire, tu dois me le dire à moi. » Je lui demandai alors, si le serment devait être offert seulement au sujet du roi, ou au sujet de princes étrangers. Il répondit, « Au sujet de ce royaume, car je ne te parlerai, dit-il, qu'en droit. » Alors, dis-je, regardez l'acte d'accusation et vous verrez que le mot sujet est encore omis de cet acte d'accusation. Donc, puisque le serment ne doit être offert qu'au sujet de ce royaume et que vous ne m'y avez pas mentionné comme sujet, le tribunal ne doit tenir aucun compte de cet acte d'accusation. À peine avais-je dit cela que le juge s'écria, « Emmenez-le, geôlier, emmenez-le. » Ainsi je fus aussitôt emmené à la hâte. Le geôlier et les gens demandaient quand on me rappellerait, mais je ne fus jamais ramené au tribunal, bien que j'eusse encore beaucoup d'autres erreurs graves à signaler dans l'acte d'accusation. Après mon départ, le juge demanda au jury s'ils étaient d'accord. Ils dirent oui, et trouvèrent pour le roi contre moi, comme on me l'a dit. Mais je ne fus jamais appelé pour entendre prononcer la sentence, ni aucune sentence ne fut prononcée contre moi que je puisse entendre. J'ai compris que, lorsqu'ils examinèrent de près l'acte d'accusation, ils virent qu'il n'était pas valable. Le juge avait fait jurer les officiers du tribunal d'affirmer que le serment m'avait été offert à l'assise initiale tel jour, comme indiqué dans l'acte d'accusation, et c'était le mauvais jour. Si le juge m'avait permis de poursuivre ma plaidoirie contre l'acte d'accusation, j'aurais pu prouver que les officiers du tribunal étaient encore des parjures, ce que l'on pensa être la raison pour laquelle il me fit emporter si vite. Le juge avait prononcé une sentence de prémunir contre Margaret Fell avant que l'on ne m'amenât, et il semble que, lorsque je fus emmené à la hâte, le tribunal me traita de nouveau comme une personne frappée de prémunir, bien que je n'eusse jamais été amené pour entendre la sentence, ni même su qu'elle existait, ce qui était très illégal. Non seulement, ils auraient dû m'avoir présent pour entendre la sentence, mais encore, ils auraient dû d'abord me demander si j'avais quelque chose à dire pour que sentence ne fût pas prononcée contre moi. Mais ils savaient que j'avais tant à dire qu'ils ne pourraient pas prononcer de sentence s'ils m'entendaient. Alors que j'étais prisonnier au château de Lancaster, il y eut grand bruit et grand discours sur le fait que le Turc se répandait sur la chrétienté, et de grandes craintes s'emparèrent de beaucoup. Mais un jour, tandis que je marchais dans ma chambre de prison, je vis la puissance du Seigneur se tourner contre lui, et qu'il faisait demi-tour. Je déclarai à quelques-uns ce que le Seigneur m'avait fait voir, alors que l'on craignait tant qu'il ne submerge la chrétienté, et dans le mois qui suivit, la nouvelle arriva, où l'on rapportait qu'il l'avait défait. Remarque, l'armée turque avait encerclé Vienne, menaçant toute l'Europe chrétienne. Un appel urgent à l'aide fut envoyé aux Cosaques d'Ukraine, célèbres pour leur capacité de combat contre les Turcs et les Tartares. Plusieurs milliers répondirent, et avec les armées autrichiennes et polonaises, lancèrent une attaque coordonnée qui défit les Turcs. Les Cosaques poursuivirent ensuite l'armée turque en retraite, afin de la détruire près de Budapest. Extrait de Valiant for the Truth, à mesure que l'année 1664 touchait à sa fin, la persécution continuait de s'accroître, et la nouvelle année s'ouvrit d'un ton sombre. Le roi déclara qu'il ne souhaitait ni voir les Quakers ni entendre parler d'eux, car il ne pouvait plus rien faire pour eux, et ainsi les amis se rendirent, le matin du premier jour, à leur lieu de culte. Aucun d'eux ne savait s'il reverrait jamais sa maison et ce qu'il aimait. Pourtant, tandis que ces mesures sévères étaient exigées pour imposer l'uniformité en matière religieuse, la vraie religion n'avait jamais été plus négligée. Les mœurs et les habitudes de l'époque étaient corrompues et immorales. La débauche de la cour se retrouvait chez le peuple, et l'ivrognerie, les jurons blasphématoires et la débauche abondaient dans la nation. De nombreuses remontrances et mises en garde prophétiques furent adressées au roi et au parlement par des amis zélés, qui se sentaient contraints par le Seigneur de les avertir de ces jugements. L'une fut écrite par George Fox le Jeune, comme on l'appelait, pour le distinguer du vétéran alors détenu au château de Scarborough. Dès 1661, il se lamente des jugements qui s'abattent sur l'Angleterre, disant que le Seigneur lui avait parlé au sujet des habitants, « Un fléau débordant, oui un grand fléau, oui un jugement grand et terrible, viendra sur le pays, et beaucoup y tomberont et seront emportés. » Un autre ami écrivit l'épître laconique suivante, adressée au roi et aux deux chambres du Parlement. « Ne te mêle pas de mon peuple, à cause de sa conscience envers moi, et ne le bannis pas hors de la nation à cause de sa conscience, car si tu le fais, j'enverrai mes plaies sur toi, et tu sauras que je suis le Seigneur. écrit en obéissance au Seigneur par son serviteur, George Bishop. Au début de l'année 1665, deux grands maux s'abattirent sur la nation anglaise, et il n'était guère surprenant que les amis y voient la main du Seigneur, en châtiment, sur un peuple pécheur et persécuteur. La guerre contre la Hollande, commencée de façon insensée par la cour d'Angleterre et encouragée par l'égoïsme de la France, amena inévitablement avec elle son cortège de cœurs brisés, le sacrifice de vies précieuses et de l'argent pire que gaspillé. Une autre fois, tandis que je marchais dans ma chambre, les yeux tournés vers le Seigneur, je vis l'ange du Seigneur, une épée nue étincelante tendue vers le sud, comme si la cour tout entière était en feu. Peu après éclatèrent les guerres avec la Hollande, puis la maladie, et ensuite l'incendie de Londres. Ainsi, l'épée du Seigneur était effectivement dégainée. Extrait de Valiant for the Truth. À mesure que passaient les premiers mois de l'année, un profond cri d'effroi s'éleva des villes comme des hameaux. La peste a éclaté. Au milieu des festivités de la cour se glissait un hôte importun, portant la peur et l'angoisse dans bien des cœurs. Posant sans pitié la main aussi bien sur les riches que sur les pauvres, sur les jeunes comme sur les vieux, il semait sur son passage ses victimes, évaluées en 5 mois à 100 000. Les affaires à Londres furent délaissées, le marchand quitta sa boutique et rentra chez lui pour y mourir, l'artisan cessa son travail, le roi et ses courtisans s'enfuirent à Oxford, et la moitié des maisons de la ville furent marquées de la tablette sinistre « Que le Seigneur ait pitié de nous ». L'herbe poussait dans les rues populeuses, sauf dans celles qui menaient au cimetière, et le bourdonnement actif de la vie et du plaisir céda la place aux lugubres atours de la mort et du malheur. Au début, les enterrements n'avaient lieu que la nuit, mais le nombre de morts augmenta si rapidement que l'on entendit à toute heure l'appel rock « Sortez vos morts ». Comme le cœur le plus intime de tous s'abattait, quand passait lentement la charrette des morts, avec ses roues grinçantes et le choc rude des sabots, le mourant se tournait vers le mur pour l'entendre et pour mourir. Mais malgré cette effroyable visitation, la persécution des non-conformistes se poursuivit avec une vigueur implacable, et la loi des 5000, 5000 actes, fut présentée et adoptée à Oxford. Dans le préambule de ce projet de loi, il était déclaré que les ministres non-conformistes inculquaient au peuple des principes de schisme et de rébellion. La loi stipulait qu'il serait passible de peine, pour tout ministre non-conformiste d'enseigner dans une école, ou de s'approcher à moins de 5000, sauf comme voyageur de passage de toute cité, bourg ou ville constituée en corporation, ou de tout lieu quel qu'il soit, où il avait prêché ou enseigné depuis l'adoption de l'acte d'uniformité, avant d'avoir souscrit au serment susmentionné, devant un magistrat, etc. Sous peine de 40 livres, le tiers de cette somme devait être versé au dénonciateur. Bien que cette loi visât ostensiblement le clergé des presbytériens, des baptistes et des indépendants, elle fut néanmoins principalement utilisée pour accabler les amis. Les incarcérations à Newgate se poursuivirent jusqu'à ce que la peste éclatât à l'intérieur de ses murs. Alors le roi, pressé par les médecins, ordonna que l'on n'y envoyât plus personne. Cependant, derrière ces murs lugubres, on endura bien des souffrances, mais avec un esprit véritablement chrétien. Le témoignage suivant est rendu par George Whitehead, qui demeura à Londres pendant cette terrible saison afin de servir au réconfort de ses frères emprisonnés. « Quand le chagrin et la tristesse se sont emparés de mon esprit, à cause de leurs douloureuses souffrances, ceci m'a ranimé, que Christ, leur salut et leur rédemption, étaient manifestes à eux et en eux. Avec de tels hommes, vivre était Christ, même en cet état, et mourir était un gain, puisque c'est par la mort que le Seigneur avait arrêté la délivrance finale de beaucoup hors des cruautés et de la verge de leurs oppresseurs. Un jour, le roi demanda si des Quakers étaient morts de la maladie. Une réponse affirmative l'amena à dire « Alors ils ne peuvent pas dire que la peste est un châtiment envoyé contre leurs ennemis pour les avoir emprisonnés, puisqu'ils en meurent eux-mêmes. » Mais l'idée puritaine d'un châtiment national pour des péchés nationaux n'était pas éteinte en Angleterre, et beaucoup, outre les amis, qui pleuraient les péchés et la corruption du temps, virent dans ce fléau la visitation d'un Dieu offensé. Les veuves et les orphelins dont les foyers avaient été rendus désolés par la peste réclamèrent désormais l'attention de la société, toujours prête à aider ses compagnons souffrants. Un certain nombre d'amis, hommes et femmes, se consacrèrent à l'œuvre de secours, tenant des réunions régulières une fois par semaine et imaginant des moyens de répondre aux besoins des cas présentés. Ceux qui résidaient à la campagne contribuèrent de leurs biens et apportèrent aussi leurs services personnels. Or, en raison de mon long emprisonnement, étroit et dans un lieu si mauvais, j'étais devenu très faible de corps, mais la puissance du Seigneur dominait tout, me soutenait en tout et me rendait capable de le servir, lui, sa vérité et son peuple, autant que le lieu le permettait. Car pendant que j'étais dans la prison de Lancaster, je réfutais plusieurs livres, tels que la messe, la prière commune, le directoire et la foi de l'Église, qui sont les quatre principales religions apparues depuis les jours des apôtres. Et comme plusieurs amis étaient en prison à Lancaster et dans d'autres prisons pour n'avoir pas payé les dîmes, je fus poussé à publier les lignes suivantes au sujet des dîmes. Au temps de la loi, ceux qui n'apportaient pas leurs dîmes au trésor robaient Dieu, alors il n'y avait pas de nourriture dans sa maison. C'est pourquoi le Seigneur commanda de les apporter dans sa maison, afin qu'il y eût de la nourriture dans le trésor, destinée à nourrir l'orphelin étranger et la veuve. Mais ces prêtres qui sont des contrefaçons, qui prennent maintenant les dîmes du peuple par une loi, viennent de la bête, et si quelqu'un ne veut pas les payer, ils l'emprisonnent ou le font payer triple. Ceux-là volent les pauvres, volent l'orphelin, et ne nourrissent ni l'étranger ni la veuve, ainsi le cri des dépouillés monte au ciel contre ces prêtres contrefaits. Beaucoup ont été presque réduits à la mendicité par ces prêtres oppresseurs, on leur a pris leur bétail et leurs grains, et on les a jetés en prison. D'autres ont été poursuivis en justice par les prêtres, et on leur a fait payer des dommages triples, et pourtant de tels prêtres sont supposés être des ministres de l'Évangile. Or, depuis que le prêtre immuable Christ est venu, le sacerdoce changeant a été renié par lui, comme nous renions maintenant ces prêtres. Mais si quelqu'un est poussé aujourd'hui à crier contre eux, on le met au pilori, on le bat ou on l'emprisonne. Beaucoup sont maintenant en prison à Lancaster et ailleurs en vertu d'une loi nationale, qui n'est pas conforme à la loi de Dieu donnée à Moïse. Nous ne lisons pas que, sous la loi de Moïse, quelqu'un ait souffert l'emprisonnement ou la saisie de biens pour n'avoir pas payé les dîmes, ni qu'on ait exigé le paiement de dommages triples. Assurément, assurément, le cri de vengeance sera entendu, celui qui s'élève des âmes opprimées qui sont sous l'autel. Il y a de nombreux prisonniers à Candale parce qu'ils ne peuvent payer les dîmes, tels que le capitaine Ward, Thomas Robertson et la veuve Garland, qui a beaucoup de petits-enfants. Ceux-ci souffrent parce qu'ils ne peuvent payer les dîmes. D'autres sont dans la prison de Candale, qui furent poussés par le Seigneur à parler aux prêtres, l'une fut poussée à aller en sac, et récemment avec de la cendre sur la tête. D'autres ont été poussés à aller en sac, comme lamentation sur l'état misérable de cette nation, puisque tant prêche l'Évangile et pourtant qu'il y a tant de crêles, de débats, de serments et de dissensions parmi le peuple. Mais là où l'Évangile est réellement reçu, les crêles et les contentions cessent et l'oppression est ôtée. Le pays pleure à cause de l'oppression de ce qu'on appelle « ministre », et bien que le cri des opprimés ne soit pas entré dans les oreilles des magistrats, le cri du pauvre peuple de Dieu opprimé est entré dans les oreilles du Seigneur du sabbat, qui va maintenant tirer vengeance de tous ses adversaires. Vous législateurs injustes et juges injustes, c'est à ce qui est en toutes vos consciences que je m'adresse, afin d'être dégagés, que vous entendiez ou refusiez, lorsque vous serez jugés par le juste juge du ciel et de la terre, dont la terreur s'est répandue contre tous les impies et tous les oppresseurs du peuple de Dieu. George Fox après les assises, le colonel Kirby et d'autres juges de paix étaient très mal à l'aise de me savoir à Lancaster, car je les avais vivement contrariés lors de mes procès, et ils s'efforcèrent d'obtenir mon transfert vers quelques lieux éloignés. Le colonel Kirby menaçait qu'on m'enverrait très loin, et parfois il disait qu'on m'enverrait au-delà des mers. Environ 6 semaines après les assises, ils obtinrent un ordre du roi et du conseil pour me faire sortir de Lancaster. Et ils apportèrent avec cela une lettre du comte d'Anglesey, où il avait écrit que si les choses qu'on disait vraies contre moi, dont j'étais accusé, se trouvaient fondées, je ne méritais ni clémence ni miséricorde. Pourtant, la plus grande chose qu'il avait contre moi, c'était que je ne pouvais pas désobéir au commandement du Christ et jurer. Quand ils eurent préparé mon transfert, le sous-shérif et l'homme du grand shérif, avec quelques huissiers, vinrent et me firent sortir du château. J'étais si faible, à force d'avoir été couché dans cette prison froide, humide et enfumée, que je pouvais à peine marcher ou tenir debout. Ils me conduisirent dans la maison du geôlier, où se trouvaient William Kirby et plusieurs autres, et ils demandèrent du vin pour m'en donner. Je leur dis, « Je ne veux pas de leur vin. » Alors ils crièrent, « Sortez les chevaux. » Je leur demandai d'abord de me montrer leur ordre, ou une copie, s'ils avaient l'intention de me déplacer, mais ils ne voulurent rien me montrer sinon leurs épées. Je leur dis, « Aucune sentence n'a été prononcée contre moi, et je n'ai pas été frappé de prémunir, à ce que je sache, et par conséquent je ne suis pas le prisonnier du roi, mais celui du shérif. » Osé tout le pays savait que je n'avais pas été pleinement entendu aux dernières assises, ni autorisé à montrer les erreurs de l'acte d'accusation, qui suffisait à l'annuler, bien qu'il m'ait gardé d'une assise à l'autre afin de me juger. Mais ils savaient tous qu'aucune sentence de prémunir n'avait été prononcée contre moi. Donc, n'étant pas le prisonnier du roi mais celui du shérif, je désirais voir leur ordre. Au lieu de me montrer leur ordre, ils m'emmenèrent dehors et me hissèrent sur l'un des chevaux du shérif. Quand je fus à cheval dans la rue, les gens de la ville s'étant rassemblés pour me regarder, Je dis aux officiers que je n'avais reçu de leur part ni christianisme, ni civilité, ni humanité. Ils m'emmenèrent précipitamment à environ 14 000 jusqu'à Bensum, bien que je fusse si faible que je pouvais à peine tenir en selle et que mes vêtements sentaient tellement la fumée qu'ils m'étaient à moi-même écœurants. Le méchant geôlier, un certain T, un jeune homme, venait par derrière et donnait un coup de fouet au cheval, le faisant bondir et sauter, de sorte que moi, étant faible, j'avais grand-peine à rester dessus, puis il venait me regarder en face et disait « Comment allez-vous, M. Fox ?» Je lui dis « Ce n'est pas si vil de faire cela, mais le Seigneur le retrancha peu après. » Quand nous fûmes arrivés à Bensum, dans le Yorkshire, beaucoup de cavaliers et un maréchal vinrent à notre rencontre, et plusieurs gentilshommes du pays étaient là, ainsi qu'une foule de gens pour me dévisager. Étant très faible et fatigué, je leur demandai de me laisser m'étendre sur un lit, ce que les soldats permirent, car ceux qui m'avaient amené là remirent leur ordre au maréchal, et il posta une garde de ses soldats auprès de moi. Lorsqu'ils furent restés un moment, ils prirent des chevaux, firent lever le bailli du Hundred, les constables et d'autres, et m'emmenèrent cette nuit-là à Giggleswick, mais j'étais extrêmement faible. Là ils réveillèrent les constables avec leurs sabots, lesquels restèrent à boire toute la nuit dans la pièce voisine de la mienne, de sorte que je ne pus guère me reposer. Le lendemain, nous arrivâmes dans une ville de marché, où plusieurs amis vinrent me voir. Robert Withers et divers amis vinrent à moi sur la route. La nuit suivante, je demandai aux soldats où ils avaient l'intention de me conduire et où l'on devait m'envoyer. Quelques-uns dirent, au-delà des mers, d'autres, au château de Tynemouth. Et ils avaient une grande crainte que quelqu'un ne me délivre de leurs mains, mais cette crainte était inutile. La nuit suivante, nous arrivâmes à York, où le maréchal me logea dans une grande chambre, où la plupart de deux troupes de soldats vinrent me voir. L'un de ces cavaliers, un homme envieux, entendant que j'étais frappé de prémunir, me demanda quel bien je possédais, et s'il était en tenure coutumière, copyhold ou en pleine propriété freeland. Je ne prêtai aucune attention à sa question, mais je fus poussé à annoncer la parole de vie aux soldats, et beaucoup d'entre eux furent très affectueux. Le soir, Lord Freshville, ainsi appelé, qui commandait ses soldats à cheval, vint à moi et fut très civil et affectueux. Je lui rendis compte de mon emprisonnement et lui déclarai beaucoup de choses relatives à la vérité. Ils me gardèrent à York 2 jours, puis le maréchal et 4 ou 5 soldats furent envoyés pour me conduire au château de Scarborough. En vérité, c'étaient des hommes très civils, qui se comportèrent envers moi avec civilité et bienveillance. En chemin, nous nous arrêtâmes à Malton, et ils permirent aux amis de venir me visiter. Quand nous arrivâmes à Scarborough, ils m'y amenèrent ce soir-là. Le lendemain, ils me conduisirent au château, me mirent dans une chambre, postèrent une sentinelle vers une auberge et avertirent le gouverneur, qui envoya une demi-douzaine de soldats pour me garder. J'étais très faible et sujet à des évanouissements, si bien qu'ils me laissèrent parfois sortir prendre l'air avec une sentinelle. Ils me retirèrent bientôt de cette chambre et me mirent dans une pièce ouverte, où la pluie entrait, et la pièce était extrêmement enfumée, ce qui m'était très pénible. Un jour, le gouverneur, qu'on appelait ce Jordan Crossland, vint me voir et amena avec lui un certain Sir Francis Cobb. Je priai le gouverneur d'entrer dans ma chambre et de voir quel endroit j'avais. J'y avais fait un petit feu, et la chambre était si pleine de fumée qu'après y être entré, il pouvait à peine en retrouver la sortie. Comme il était papiste, je lui dis que c'était là son purgatoire, celui où il m'avait mis. Je fus contraint de payer environ 50 shillings pour empêcher la pluie d'entrer et pour que la pièce ne fume pas tant. Quand j'eus été dans cet endroit et l'eus rendu quelque peu supportable, on me transféra dans une chambre pire, où je n'avais ni cheminée ni foyer. Cette chambre donnait du côté de la mer, et comme elle était très exposée, le vent y chassait la pluie avec force, si bien que l'eau passait sur mon lit et courait dans la pièce, à tel point que j'étais heureux de pouvoir l'écumer avec un plat. Et lorsque mes vêtements étaient mouillés, je n'avais pas de feu pour les sécher, ainsi mon corps était engourdi de froid, et mes doigts enflaient, au point que l'un d'eux devint gros comme deux. Bien que j'eusse aussi fait quelques dépenses pour cette pièce, je ne pouvais pourtant pas y tenir dehors le vent et la pluie. En outre, il n'autorisait que peu d'amis à me visiter, et souvent aucun, pas même pour m'apporter un peu de nourriture, si bien que, durant le premier trimestre, je fus obligé de salarier quelqu'un du monde pour m'apporter le nécessaire. Parfois, les soldats le lui prenaient, et elle se battait avec eux pour le récupérer. Plus tard, je louai un soldat pour m'aller chercher de l'eau et du pain, et quelque chose pour faire du feu lorsque j'étais dans une pièce où l'on pouvait faire du feu. D'ordinaire, un pain de 3 pence me durait 3 semaines, et parfois plus, et la plupart de ma boisson était de l'eau, dans laquelle on avait fait infuser ou écraser de l'absinthe. Une fois, lorsque le temps était très rude et que j'avais pris un gros rhume, j'obtins un peu de bière aux herbes, et j'entendis l'un des soldats dire à l'autre qu'il me jouerait un bon tour, Il m'enverrait chez le gouverneur adjoint et pendant ce temps, boirait toute ma bonne bière aux herbes, et ils le firent. Quand je revins, l'un des soldats vint vers moi en se moquant et me demanda de la bière forte. Je lui dis qu'ils m'avaient joué leur bon tour et je n'y prêtai pas plus d'attention. Mais comme ils me tenaient ainsi étroitement enfermé, ne donnant pas la liberté aux amis de me visiter, je parlai au gardien du château en ces termes. Je ne suis pas, jusqu'à ce que l'on me déplaça du château de Lancaster et que l'on m'amena prisonnier dans ce château de Scarborough, que j'avais été condamné au pramunir, car le juge n'a pas prononcé de sentence contre moi aux assises en audience publique. Mais puisque je suis maintenant prisonnier ici, si je ne puis avoir ma liberté, que mes amis et connaissances aient la liberté de venir me voir, comme les amis de Paul parmi les Romains, qui n'étaient pas chrétiens mais païens. Car les amis de Paul avaient leur liberté, et tous ceux qui le voulaient pouvaient le visiter, et il avait la liberté de leur prêcher dans la maison qu'il avait louée. Mais moi, je n'ai pas la liberté d'aller en ville, ni mes amis celle de venir me voir ici. Ainsi, vous qui portez le nom de chrétien, vous êtes, sur ce point, pire que ne l'étaient ces païens. Mais bien qu'ils ne laissassent pas les amis venir à moi, ils amenaient souvent d'autres personnes, soit pour me dévisager, soit pour me contester. Une fois, une grande troupe de papistes vint s'entretenir avec moi, ils affirmaient que le pape était infaillible et qu'il était demeuré infaillible depuis le temps de Pierre. Je leur montrai le contraire par l'histoire, car l'un des évêques de Rome, du nom de Marcellin, renia la foi et sacrifia aux idoles, donc il n'était pas infaillible. Je leur dis que s'ils étaient dans l'esprit infaillible, ils n'auraient pas besoin de prison, d'épées et de bâtons, de chevalets et de tortures, de feux et de fagots, de fouets et de gibets, pour soutenir leur religion et détruire la vie des hommes au sujet de la religion. Car s'ils étaient dans l'esprit infaillible, ils préserveraient la vie des hommes et n'emploieraient, en matière de religion, que des armes spirituelles. Je leur rapportai aussi ce que l'un de leur société m'avait dit. Une femme vivait dans le Kent, elle avait non seulement été papiste elle-même, mais avait amené plusieurs personnes à cette religion. Mais en venant à être convaincue de la vérité de Dieu et en étant, par elle, tournée vers Christ, son Sauveur, elle exhorta les papistes à faire de même. Lorsqu'elle tenta d'expliquer la fausseté de la religion papiste et s'efforça de persuader un tailleur qui travaillait dans sa maison de venir à la vérité, il tira son couteau sur elle et se mit entre elle et la porte. Mais elle lui parla hardiment et lui dit de rengainer son couteau, car elle connaissait son intention. Je demandai à la femme ce qu'elle pensait qu'il aurait fait de son couteau. Elle dit, « Il l'aurait poignardé. »« Vous poignardez, dis-je, pourquoi vous aurait-il poignardé, pour votre religion ?»« Oh oui, dit-elle, c'est le principe des papistes. Si quelqu'un se détourne de leur religion, ils le tuent s'ils le peuvent. » Je racontai cette histoire à ces papistes, et que je la tenais d'une personne qui avait été l'une des leurs, mais qui avait abandonné leurs principes et dévoilé leurs pratiques. Ils ne nièrent pas que ce fût leur principe, mais dirent, « Quoi, le déclarerai-je publiquement ?» Je leur dis, « Oui, de telles choses doivent être déclarées publiquement, afin qu'on sache à quel point leur religion est contraire au vrai christianisme, sur quoi ils s'en allèrent dans une grande rage. » Un autre papiste vint discuter avec moi, disant que « tous les patriarches étaient en enfer depuis la création jusqu'à ce que Christ vienne, et que lorsque Christ souffrit, il descendit dans enfer, et le diable lui dit, « Pourquoi es-tu ici pour forcer nos forteresses ?» Et Christ dit, pour faire sortir les patriarches. Ainsi dit-il, Christ fut en enfer 3 jours et 3 nuits pour les faire sortir. Je lui dis que c'était faux, car Christ dit au larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et Enoch et Élie furent enlevés au ciel. Et Abraham était au ciel, car l'Écriture dit que Lazare était dans son sein, et Moïse et Élie étaient avec Christ sur la montagne avant qu'il ne souffre. Ces exemples fermèrent la bouche du papiste et le laissèrent interdit. Une autre fois vint un certain docteur Whitty, réputé grand médecin, il vint avec Lord Falconbridge, le gouverneur du château de Tynemouth et plusieurs chevaliers. On me fit venir auprès d'eux, et Whitty entreprit de discuter avec moi, et me demanda, « Pourquoi êtes-vous en prison ?» Je lui dis, « Parce que je ne veux pas désobéir au commandement du Christ et jurer. » Il dit, « Je devrais jurer allégeance au roi. » Comme il était un grand presbytérien, je lui demandai s'il n'avait pas juré contre le roi et la chambre des lords et prêté le covenant écossais, et s'il n'avait pas ensuite juré au roi, à quoi donc son serment avait-il servi? Mais mon allégeance, lui dis-je, ne consistait pas à jurer, mais dans la vérité et la fidélité. Après quelque autre entretien, on me ramena à ma prison, et par la suite ce Dr. Whitty se vanta en ville, parmi ses patients de m'avoir vaincu. Quand je l'appris, je dis au gouverneur, c'est une bien petite vantardise pour lui que de dire qu'il a vaincu un homme enchaîné. Je souhaitais qu'il revînt me voir la prochaine fois qu'il viendrait au château. Au bout d'un moment, il revint avec environ 16 ou 17 grands personnages, et alors il tomba dans des erreurs encore pires. Car en discutant, Il affirma devant eux tous que Christ n'avait pas éclairé tout homme venant au monde, que la grâce de Dieu, qui apporte le salut, n'était pas apparue à tous les hommes, et que Christ n'était pas mort pour tous les hommes. Je lui demandai quelle sorte d'hommes étaient ceux que Christ n'avait pas éclairés, à qui sa grâce n'était pas apparue, et pour qui il n'était pas mort. Il dit, « Christ n'est pas mort pour les adultères, les idolâtres et les méchants. » Alors je lui demandai si les adultères et les méchants n'étaient pas des pécheurs. Il dit, « Oui. Et Christ n'est-il pas mort pour les pécheurs ?» Dis-je, « N'est-il pas venu appeler les pécheurs à la repentance ?»« Oui, » dit-il. Alors, dis-je, « Vous vous êtes fermé vous-même la bouche. » Ainsi je prouvai que la grâce de Dieu était apparue à tous les hommes, bien que certains s'en détournent pour tomber dans la licence et marchent contre elle avec insolence, et que Christ avait éclairé tous les hommes, bien que certains haïssent la lumière. Plusieurs personnes présentes reconnurent que c'était vrai, mais il s'en alla dans une grande rage et ne revint plus. Une autre fois, le gouverneur amena un prêtre, mais sa bouche fut bientôt fermée. Peu après, il amena deux ou trois membres du Parlement, qui me demandèrent si je reconnaissais les ministres et les évêques. Je leur dis, oui, tel que Christ a envoyé, tel que ceux qui avaient reçu gratuitement et donnaient gratuitement, tels que ceux qui étaient qualifiés et qui étaient dans la même puissance et le même esprit que les apôtres. Mais ces évêques et docteurs qui n'iraient pas plus loin qu'un gros bénéfice, charge rapportant des revenus, je ne les reconnaissais pas, car ils ne sont pas comme les apôtres. Car Christ dit à ses ministres, « Allez par toutes les nations et prêchez l'Évangile, mais vous, membres du Parlement, qui entretenez vos prêtres et évêques dans de si grands et gras bénéfices, vous les avez tous gâtés. Car pensez-vous qu'ils aillent dans toutes les nations pour prêcher, ou qu'ils aillent plus loin qu'un gros et gras bénéfice, jugez par vous-même s'ils le feront ou non. » Une autre fois, la veuve du vieux Lord Fairfax vint avec une grande compagnie, parmi eux se trouvait un prêtre. Je fus poussé à leur déclarer la vérité, et le prêtre me demanda, « Pourquoi disions-nous, thou et thee aux gens ?» Car ils nous tenaient pour des fous et des idiots de parler ainsi. Je lui demandai, « Ceux qui ont traduit les Écritures et fait les livres de grammaire étaient-ils des fous et des idiots, puisqu'ils ont traduit les Écritures et fait la grammaire ainsi, thou pour une personne, et you pour plus d'une ?» S'ils étaient des fous et des idiots, pourquoi lui et ceux de son espèce, qui se regardaient comme des hommes sages, n'avaient-ils pas changé la grammaire et la Bible pour mettre le pluriel à la place du singulier? Mais s'ils étaient des hommes sages, ceux qui ont traduit la Bible et fait les livres de grammaire, alors je souhaitais qu'ils considèrent si ce n'étaient pas eux-mêmes des fous et des idiots, ceux qui ne parlaient pas comme leur grammaire et leur Bible le leur enseignait, mais qui s'offensaient de nous et nous appelaient des fous et des idiots parce que nous parlions ainsi. Ainsi la bouche du prêtre fut fermée, et beaucoup de la compagnie reconnurent la vérité et furent assez affectueuses et sensibles. Certains auraient voulu me donner de l'argent, mais je n'en voulus pas. Après cela vint un certain D.R. Craddock avec trois prêtres, le gouverneur et sa dame ainsi appelée, et une autre qu'on appelait une dame avec une grande compagnie. Le D.R. Craddock me demanda, « Pourquoi êtes-vous en prison ?» Je lui dis, « Pour obéir au commandement du Christ et de l'apôtre en ne jurant pas. » Mais si vous, qui êtes à la fois docteur et juge de paix, pouviez me convaincre qu'après que le Christ et l'apôtre ont interdit de jurer, ils ont commandé aux chrétiens de jurer, alors je jurerai. Voici la Bible, lui dis-je, et vous pouvez, si vous le pouvez, me montrer un tel commandement. Il dit, il est écrit, tu jureras en vérité et en justice. Oui, dis-je, cela était écrit au temps de Jérémie, mais c'était bien des siècles avant que le Christ ne commande de ne pas jurer du tout. Mais où est-il écrit ainsi depuis que le Christ a interdit tout serment? Je pourrais apporter autant d'exemples de l'Ancien Testament sur le serment que vous, et peut-être davantage, mais à quoi servent-ils pour prouver qu'il est permis de jurer dans le Nouveau Testament, puisque le Christ et l'apôtre l'ont interdit? De plus, dis-je, dans ce texte où il est écrit « Tu jureras », qui était ce « tu » qui devait jurer? Était-ce vous gentil ou vous juif? À cela il ne voulut pas répondre, mais l'un des prêtres qui l'accompagnait répondit « C'était aux juifs que cela était dit ». Alors le D.R. Craddock reconnut que c'était ainsi. « Très bien, dis-je, mais où Dieu a-t-il jamais donné aux gentils un commandement de jurer? Car vous savez que nous sommes gentils par nature. En vérité, dit-il, au temps de l'Évangile, toute chose devait être établie par la bouche de deux ou trois témoins, mais il ne devait pas y avoir de serment alors. Pourquoi donc, dis-je, imposez-vous des serments aux chrétiens, contrairement à ce que vous savez vous-même des temps de l'Évangile, et pourquoi, dis-je, excommuniez-vous mes amis? Car il en avait excommunié beaucoup, tant dans le Yorkshire que dans le Lancashire. Il dit, pour ne pas venir à l'église. Mais, dis-je, vous nous avez quittés il y a plus de 20 ans, quand nous n'étions que de jeunes garçons et filles, pour les presbytériens, les indépendants et les baptistes, dont beaucoup ont saisi nos biens, et nous ont persécutés parce que nous ne voulions pas les suivre. Nous étions jeunes et connaissions alors peu de vos principes. et les vieux qui les connaissaient, si vous aviez eu l'intention de les garder parmi vous et de maintenir vos principes vivants, afin que nous les connaissions, vous n'auriez soit pas dû fuir loin de nous comme vous l'avez fait, soit vous auriez dû nous envoyer vos épîtres, vos collectes, vos homélies et vos chants du soir, car Paul a écrit des épîtres aux saints, bien qu'il fût en prison. Mais eux et nous aurions pu nous tourner vers les Turcs ou les Juifs, pour tout ce que vous en saviez, faute de collectes, d'homélies ou d'épîtres reçues de votre part tout ce temps. Et maintenant vous nous avez excommuniés, jeunes et vieux, et d'autres d'entre vous ont fait de même, c'est-à-dire que vous nous avez mis hors de votre Église avant de nous y avoir fait entrer et avant de nous avoir amenés à connaître vos principes. N'est-ce pas folie de votre part de nous mettre dehors avant de nous avoir fait entrer? Certes, si vous nous aviez fait entrer dans votre Église et qu'une fois dedans nous eussions fait quelque mauvaise chose, cela aurait été quelque chose comme un motif d'excommunication ou de nous mettre dehors à nouveau. Mais dis-je, qu'appelez-vous l'Église? Eh bien, dit-il, ce que vous appelez la maison au clocher. Je lui demandai alors si le Christ avait versé son sang pour la maison au clocher, et acheté et sanctifié la maison au clocher par son sang, et puisque l'Église est l'épouse et la femme du Christ, et qu'il est la tête de l'Église, pensait-il que la maison au clocher était l'épouse du Christ, et qu'il en était la tête de cette vieille maison, ou de son peuple? Non, dit-il, le Christ est la tête de son peuple, et c'est eux qui sont l'Église. Mais dis-je, vous avez donné le titre d'Église à une vieille maison qui appartient au peuple, et vous leur avez appris à le croire. Je lui demandai aussi pourquoi il persécutait les amis parce qu'ils ne payaient pas les dîmes, et si Dieu avait jamais commandé aux gentils de payer les dîmes, et si le Christ n'avait pas mis fin aux dîmes quand il a mis fin aux sacerdoces lévitiques qui percevaient les dîmes, et si le Christ, lorsqu'il a envoyé ses disciples prêcher, ne leur avait pas commandé de prêcher gratuitement, comme il leur avait donné gratuitement, et si tous les ministres du Christ ne sont pas tenus d'observer ce commandement du Christ. Il dit qu'il ne contesterait pas cela. Je ne trouvais pas non plus qu'il fût disposé à rester sur ce sujet, car il passa aussitôt à une autre affaire et dit « Vous vous mariez, mais je ne sais pas comment. » Je répondis « Il se peut, mais pourquoi ne venez-vous pas voir ?» Alors il menaça qu'il userait de son pouvoir contre nous, comme il l'avait fait. Je lui dis « Prenez garde, vous êtes un vieil homme. » Je lui demandai aussi où il avait lu, de la Genèse à l'Apocalypse, qu'un prêtre ait jamais marié qui que ce soit. Je le priai de me montrer un exemple, s'il voulait que nous allions à eux pour nous marier. Car, dis-je, vous avez excommunié l'un de mes amis à propos de son mariage 2 ans après sa mort. Et pourquoi n'avez-vous pas excommunié Isaac, et Jacob, et Booz, et Ruth? Car nous ne lisons pas qu'ils aient jamais été mariés par des prêtres, mais ils se sont pris l'un l'autre dans les assemblées des justes, en la présence de Dieu et de son peuple, et nous faisons de même. Ainsi tous les hommes et toutes les femmes saints, dont l'Écriture parle dans cette pratique, sont de notre côté. Nous eûmes beaucoup de discussions, mais quand il vit qu'il ne pouvait prendre aucun avantage sur moi, il s'en alla avec sa compagnie. Avec de tels gens, j'eus bien des épreuves pendant que j'étais là, car la plupart des personnes qui venaient au château désiraient me parler, et j'eus avec elles de grandes disputes et discussions. Mais quant aux amis, j'étais comme un homme enterré vivant, car bien que beaucoup vinssent de loin pour me voir, peu étaient autorisés à venir jusqu'à moi. Et quand un ami entrait au château pour affaire, s'il ne faisait que regarder dans ma direction, il s'enrageait contre lui. Enfin, le gouverneur eut lui-même des ennuis, car ayant envoyé un corsaire en mer, ils prirent des navires qui n'étaient pas des navires ennemis, mais des navires amis, de quoi il fut inquiété, après quoi il devint un peu plus amical envers moi. Auparavant, on avait placé sur moi un prévôt pour m'extorquer de l'argent, mais je ne voulus pas lui donner un liard, et quand ils virent qu'ils ne pouvaient rien obtenir de moi, on le retira. Les officiers me menaçaient souvent de me pendre par-dessus le mur. Non, le lieutenant-gouverneur me dit un jour que le roi, sachant que j'avais une grande influence sur le peuple, m'avait envoyé là, et que s'il y avait quelque agitation dans la nation, il me pendrait par-dessus le mur pour tenir le peuple en respect. Quelque temps après, il y eut un mariage dans la maison d'un papiste. À cette occasion, un grand nombre d'entre eux se réunirent et parlèrent beaucoup de me pendre. Mais je leur dis que, si c'était ce qu'ils désiraient et que cela leur fut permis, j'étais prêt, car je n'avais jamais craint la mort ni les souffrances de ma vie, mais on me connaissait pour un homme innocent et paisible, libre de toute agitation et de tout complot, et qui cherchait le bien de tous les hommes. Par la suite, le gouverneur étant devenu plus bienveillant, je lui parlai lorsqu'il devait aller à Londres au Parlement, et le priai de parler à celui qu'on appelait l'écuyer Marsh, à ce Francis Cobb et à quelques autres, et de leur faire savoir depuis combien de temps j'étais en prison et pour quelle cause ce qu'il fit. Lorsqu'il revint, il me dit que l'écuyer Marsh avait dit « Il irait 100 000 pieds nus pour ma liberté, tant il me connaissait bien, et plusieurs autres, dit-il, parlèrent bien de moi. » À partir de ce moment, le gouverneur fut très affectueux envers moi. Parmi les prisonniers se trouvaient deux hommes très mauvais, qui souvent restaient assis à boire avec les officiers et les soldats, et parce que je ne voulais pas m'asseoir et boire avec eux, cela les rendait davantage contre moi. Une fois, lorsque ces deux prisonniers étaient ivres, l'un d'eux nommé William Wilkinson, un presbytérien qui avait été capitaine, vint et me provoqua à me battre avec lui. Voyant dans quel état il était, je l'évitai, et le lendemain matin, quand il fut plus sobre, je lui montrai combien il était peu viril de provoquer à se battre un homme dont il savait que le principe était de ne pas frapper, mais que s'il était frappé sur une joue, il devait tendre l'autre. Je lui dis que s'il avait envie de se battre, il aurait dû provoquer certains des soldats qui auraient pu lui répondre à sa façon. Toutefois, puisqu'il m'avait provoqué, j'étais maintenant venu lui répondre, les mains dans mes poches, et avançant la tête vers lui, « Voilà, dis-je, voilà mes cheveux, voilà mes joues, voilà mon dos. » Là-dessus, il s'éloigna en sautillant et entra dans une autre pièce, alors les soldats se mirent à rire, et l'un des officiers dit, « Vous êtes un homme heureux de pouvoir supporter de telles choses. » Ainsi, il fut vaincu sans un coup, mais au bout d'un moment, il prêta serment, donna caution, et sortit de prison, et peu après le Seigneur le retrancha. Pendant que j'étais prisonnier à Lancaster et à Scarborough, il y eut cette année-là et les années précédentes de grandes vagues d'emprisonnement. À Londres, beaucoup d'amis furent entassés à Newgate et dans d'autres prisons, où il y avait de la maladie, et beaucoup moururent en prison. Beaucoup aussi furent bannis, et plusieurs furent envoyés à bord de navires par ordre du roi. Certains capitaines de navires ne voulurent pas les transporter, mais les débarquèrent de nouveau. Toutefois, certains furent envoyés à la Barbade, à la Jamaïque et à Nevis, et le Seigneur les y bénit. Un capitaine de navire fut très méchant et cruel envers les amis qu'on avait mis à bord de son navire, car il les maintenait au-dessous du pont, bien que la maladie fût parmi eux, de sorte que beaucoup en moururent. Mais le Seigneur le visita pour sa méchanceté, car il perdit la plupart de ses marins par la peste, et demeura plusieurs mois contrarié par des vents contraires, tandis que d'autres navires sortaient et faisaient leur voyage. Enfin, il arriva devant Plymouth, où le gouverneur et les magistrats ne lui permirent ni à lui ni à aucun de ses hommes de débarquer, bien qu'il eût besoin de beaucoup de provisions pour son voyage. Mais Thomas Lowe, en ce coton, John Light et quelques autres amis allèrent au bord du navire et apportèrent des nécessités aux amis prisonniers à bord. Le capitaine, ainsi contrarié et vexé, maudit ceux qui avaient chargé du fret sur son navire et dit « J'espère ne pas aller loin avant d'être pris ». Et lorsque le bâtiment n'eut navigué qu'un peu de temps, à peine sorti de vue de Plymouth, il fut capturé par un navire de guerre hollandais et emmené en Hollande. Lorsqu'ils arrivèrent en Hollande, les États renvoyèrent les amis bannis en Angleterre, avec une lettre de passeport et un certificat attestant qu'ils ne s'étaient pas évadés, mais avaient été renvoyés par eux. Mais avec le temps, la puissance du Seigneur agit sur cette tempête, et beaucoup de nos persécuteurs furent confondus et couverts de honte. Après avoir été prisonnier plus d'un an au château de Scarborough, j'envoyai une lettre au roi, dans laquelle je lui rendais compte de mon emprisonnement et des mauvais traitements que j'avais reçus en prison, et aussi que j'étais informé que nul homme ne pouvait me délivrer, si ce n'est lui. Après cela, John Whitehead étant à Londres et ayant aussi des relations avec celui qu'on appelait l'écuyer Marsh, alla lui rendre visite et lui parla de moi, et il entreprit, si John Whitehead faisait rédiger l'état de mon affaire, de le remettre au maître des requêtes, qu'il appelait ce John Birkenhead, qui s'efforcerait d'obtenir ma libération. Ainsi John Whitehead et Elie Rooks rédigèrent un récit de mon emprisonnement et de mes souffrances, et le portèrent à Marsh, et celui-ci l'apporta au maître des requêtes, qui obtint du roi un ordre pour ma libération. La substance de l'ordre était que le roi étant assurément informé que j'étais un homme, par principe, opposé au complot et au combat, et que j'avais été prêt en tout temps à découvrir les complots plutôt qu'à en faire, son bon plaisir royal était que je fusse déchargé de mon emprisonnement. Dès que cet ordre fut obtenu, John Whitehead vint à Scarborough avec lui et le remit au gouverneur, lequel à sa réception rassembla les officiers et sans exiger caution ni garantie pour ma conduite paisible, étant convaincu que j'étais un homme d'une vie pacifique, me relâcha librement et me donna le passeport suivant. Permettez au porteur des présents, George Fox, récemment prisonnier ici et maintenant libéré par ordre de Sa Majesté, de vaquer paisiblement à ses affaires légitimes, sans être inquiété. Donné de ma main au château de Scarborough, ce premier jour de septembre 1666, Jordan Crosland, gouverneur du château de Scarborough, retour suivant.